Vous écoutez
RMC.
After exceptionnel ce soir pour l'ouverture de la saison de Ligue 1. On est au stade Vélodrome après la victoire de l'OM 4-0 face au Racing Club de Strasbourg. Le doublé de Guiri, le but du jeune Kélian Abdallah et le but de l'ancien capitaine Pierre-Emile Højbjerg. On est avec Daniel Riolo, avec Walid Acherchour. Alors, en dehors de cette victoire marseillaise, il faut qu'on parle de l'Olympique Lyonnais. Lyon est en colère après le refus de la Ligue de reporter son match demain à Toulouse. Match qui est programmé entre les barrages aller et retour de Ligue des Champions contre Fenerbahçe. Je voulais vous faire écouter Paulo Fonseca, l'entraîneur lyonnais, qui s'en est plaint aujourd'hui en conférence de presse.
Je suis désolé. Pour moi, c'est difficile de comprendre parce que je pense que c'est très positif pour le football français d'avoir la possibilité d'avoir un plus club dans la Champions League. Et je pense que c'est positif pour tous. Nous n'avons pas tous qui veulent le bien de France, le championnat français. Peut-être je comprends de Toulouse, mais les autres clubs, nous vivons des temps très égoïstes. C'est pas bon. C'est pour le bien du football français.
Paulo Fonseca. Alors les garçons, Walid, Daniel, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures quand on se rappelle les reports et notamment le fameux report de Lens PSG la saison passée ?
Oui.
Deux poids, deux mesures ?
Il a raison. Il a raison. L'année dernière, on a autorisé le Paris Saint-Germain entre un choc Lens PSG
deux fois
pour aller gagner une Ligue des Champions qu'ils ont gagnée. Pourquoi l'Olympique Lyonnais qui doit aller chercher une Ligue des Champions dans un match très important au couteau contre le Fenerbahçe ? Fenerbahçe qui a envoyé quand même les oiseaux, hein. Ils ont envoyé quand même beaucoup beaucoup d'argent pour faire un gros mercato. Pourquoi si on est dans la même logique, pourquoi on ferait pas la même chose avec l'Olympique Lyonnais ?
Aujourd'hui, il y a une obsession qui est légitime à l'OL, c'est d'aller en Ligue des Champions parce qu'il y a les 44 millions. Toutes les réflexions dans notre foot aujourd'hui ne tournent qu'autour de l'oseille. Le sport, c'est en deux. On vient de parler de l'OM, on parle des départs, ils ont gagné 4-0. Une fois qu'on a parlé de ce qui s'est passé, on est immédiatement freiné dans notre analyse en disant « Ah, mais ça va peut-être pas être les mêmes joueurs parce qu'ils vont peut-être partir parce que les finances sont catastrophiques. » Strasbourg, on parle de la même chose. Lyon, c'est le sujet qui suit. Ils ont un match très important qu'on a tous envie de voir mercredi soir.
Très excitant.
Parce que c'est un barrage de Ligue des Champions, donc c'est forcément très excitant. Mais on sait que derrière, c'est quelque chose de vital pour l'OL d'y aller. Pour les finances, je rappelle quand même que ces réflexions-là, parce qu'en fait, tant que le football français ne se sera pas complètement réorganisé par rapport aux faillites financières dues aux droits télé, et ça va prendre du temps, on sera dans cette réflexion-là. Parce qu'au bout d'un moment, quand on aura admis que tu n'as plus de thunes, bah, tu feras avec plus de thunes. Sauf que là, il faut digérer toutes les erreurs. Par exemple, l'OM, s'ils sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils ont surinvesti sur la qualification en Ligue des Champions en se disant « il va falloir qu'on y aille 2 ans de suite et tout ça ». Et ils ont beaucoup trop dépensé d'argent et trop investi et ils se sont mis dans le ravin. Lyon, c'est pour d'autres motifs avec la gestion catastrophique post-Olas quand Textor a mis le club dans le ravin.
Plus droits TV, donc, plus CVC, plus...
Donc les droits TV, tout ça. Donc
non, mais ça,
tant
okay,
qu'on ne sera
là...
pas réorganisé, on vit en suspens de ça. Donc aujourd'hui, tu as les clubs français, ça tourne en rond. Ils ont besoin vital d'aller en Coupe d'Europe. Pour aller en Coupe d'Europe, bah, le mieux, c'est quand même d'investir un peu parce que ça te permet
mais
de grader ton équipe.
Daniel, d'accord, donc, mais là, sur la décision qui a été prise
la décision
d'empêcher
là,
le report.
Ben donc
pourquoi
si le football français,
pourquoi
je dis ça ? Parce que si le football français doit admettre qu'on doit aider nos clubs en Coupe d'Europe parce que c'est là qu'il y a l'oseille, ce football français ne peut pas empêcher Lyon de décaler un match.
C'est ce qu'on nous a dit l'année dernière. L'année dernière, c'est ce qu'on nous a dit.
Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de ligue. La Ligue n'existe plus puisqu'il y a eu la loi sur le sport qui a été votée. Je ne sais même pas pourquoi il est encore en poste. D'ailleurs, Vincent Labrune, il devrait s'en aller. Je ne sais pas pourquoi il attend absolument.
Il reste encore quelques semaines pour que ça rentre.
Je ne sais pas pourquoi il attend.
Là, c'est que semaine.
Non, mais il attend le coup de chausson. Mais part, c'est bon, ça suffit.
Il doit encore
tout s'organiser. Non, il ne décide pas. Il décide de plus rien.
Donc il y a qui doit décider aujourd'hui.
Donc Lyon,
en fait, ils se prennent.
Je ne sais pas.
C'est d'un nom de la farce, les mecs.
Mais voilà. Et donc là, effectivement, c'est une décision qui est difficilement compréhensible. Alors t'as toujours ceux qui ressortent des exemples. Oui, mais là c'était comme ça.
Donc on a ouvert la boîte de Pandore. Il faudrait la refermer définitivement.
Mais en fait,
et ne plus permettre ce genre d'ajustement de calendrier.
Après le truc, c'est que tu dois également dire que on a. Ça c'est la question. Tu sais que cette question-là, l'a posée l'année dernière parce qu'on a un championnat à 18 clubs. On a une seule coupe nationale. Bon, on doit quand même être capable d'organiser un calendrier comme il faut. Je rappelle quand même que chaque année il y a l'histoire de la Coupe de France. Qui fait décaler des matchs, qu'après c'est plus tout à fait équitable pour les équipes qui jouent. Chaque année, on a un calendrier complètement bordélique. Il va y avoir quand même quelqu'un à un moment capable de prendre des décisions pour organiser un calendrier comme il faut, pour prévoir que tu vas laisser. Mais Lyon, il fallait qu'il joue là. Il fallait qu'il joue ce soir.
Ouais, parce qu'ils ont joué mardi soir et ils rejouent mercredi, c'est ça?
Mardi, trois jours, non. Oui, bah, parce que oui, non, ils. Ouais, il fallait trouver le moyen.
Et surtout, c'est un dossier. Voilà, c'est un dossier quand même qui aurait dû être prévu.
De leur laisser 4 jours
en amont quand même, Jérôme, parce que bon, le premier tour de barrage, normalement, les clubs de Ligue 1, sur les dernières années, ils les passent. On l'a vu avec Lille. Il y a des grandes chances que tu te retrouves dans ce cas de figure. Avec cette première journée de championnat.
Alors, autre dossier, c'est évidemment, Rennes, qui concerne les compétitions, c'est le PSG Rennes, qui devient Rennes PSG, vous le savez, parce que le match a été finalement inversé, se disputera au Roazhon Park, parce
donc
que Paris.
Pour finir, ils vont faire tourner, hein, demain.
Bah oui, ils mettent entre Toulouse et l'argent qu'il y a contre
les quatre défenseurs titulaires contre Fenerbahçe sont absents déjà.
Oui,
il n'y aura ni Abner, ni Niakate, ni Kluivert, ni Maitland Niles.
Après, la vérité, c'est que, bon, ok, tu vas jouer samedi, tu vas faire jouer des remplaçants, le match lumière. Mercredi, bon.
Oui, d'accord, mais c'est quand même une J1 de Ligue 1, c'est quand même un match très important. Mais bon, par rapport à Fenerbahçe, bien évidemment.
Si ta priorité, c'est le barrage, oui. Tu iras jouer le barrage, et puis voilà. Ouais. Et puis tu feras tourner.
T'en prends 4 contre Toulouse,
En fait, non, mais c'est la vie normale. En fait, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière.
Exactement. En fait, voilà, le truc, c'est que je suis partagé.
Il y a un vice de protection,
c'est que je suis partagé sur cette question parce que, en fait, c'est comme tu dis, comme on a ouvert la porte, tout le monde veut s'engouffrer maintenant. Mais dans l'absolu. Ok, bah tu touches pas le calendrier, quoi.
Exactement.
T'arrêtes une bonne fois pour toutes. Ils jouent samedi, ils mettent une équipe avec des remplaçants.
Et du coup, on sera particulièrement attentif à ce qui se passera cette année.
Sauf qu'ils disent, comme on n'a pas de thunes, on n'a pas réellement d'équipe B, on n'a pas réellement de remplaçants, parce qu'on a des difficultés.
Oui, mais le débat, c'est par rapport au PSG, Daniel. C'est ça,
c'est
le
débat. La porte ouverte.
C'est ça, en fait.
Mais
alors,
c'est ça. Donc, en fait, c'est parce qu'il n'aurait pas fallu ouvrir la porte comme on l'a
bien
fait.
Évidemment.
Sauf que la porte, si on l'a ouverte autant, c'est parce que le monsieur qui a l'emploi fictif à la tête de la LFP. C'est le laquais du président du PSG.
Il y a eu Strasbourg l'année dernière, non?
Strasbourg-Brest. On a tout fait, on a ouvert les
portes. Strasbourg-Brest, il avait été. Non, il est où je me trompe?
Quand t'as ouvert
les Strasbourg aussi.
Oui, quand t'as ouvert les portes,
Lyon,
ou les fenêtres.
Alors, ils ont le droit d'être comme des dingues, là.
Bien sûr qu'ils ont le droit.
Le PSG, justement, qui n'a pas été capable d'organiser le match face à Rennes au Parc des Princes dimanche soir ou dans un autre stade de repli, d'ailleurs, Stade de France, Jean Bouin, Charletti, tout a essayé, rien ne fonctionne. Du coup, Rennes a accepté d'organiser le match. D'après le règlement, Rennes doit organiser également le match retour parce qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Arnaud Pouille, le directeur général du club breton. Est-ce que vous êtes d'accord avec la position du Stade Rennais, sachant qu'il y aura une réunion devant la commission d'organisation des compétitions la semaine prochaine?
Ils ont totalement validé le fait d'organiser le match mercredi matin. On est vendredi. Organiser un match, c'est pas simple, genre, en termes de le personnel à recruter,
les loges,
tes invités, les loges, tes spectateurs,
les traiteurs.
Le tout n'est pas de remplir le stade avec les supporters qui vont venir, qui vont acheter les billets. Ok, ça c'est facile, mais il y a tout le reste autour.
Et puis c'est pas rallongé. Rennes PSG, c'est la machine Afrique.
Donc,
hein.
Donc c'est l'affiche. Tu veux pas la perdre, puisque le PSG, c'est le club qui remplit les stades en France. Tu peux pas te permettre. Et effectivement, qu'on sait qu'il y a des moments dans l'année où c'est le mieux de recevoir le PSG, parce que tu vas faire le plein, parce que tu vas avoir tes invités, tu vas avoir tous tes sponsors qui seront contents. Eux, on les prend de court, on leur dit vous voulez bien. Mais eux, ils ont dit oui, à la condition qu'on ne touche pas à celui du mois de mars. Parce que si tu leur avais dit tout de suite, vous l'organisez là, mais on vous enlève l'autre, ils auraient dit bah non, on reporte, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aurais parfaitement compris la position de Rennes, et je la comprends, la position de Rennes, en fait. Et c'est le PSG qui n'est pas prêt. Ben, le PSG avait qu'à aller sur autre chose. C'est-à-dire, bon, on reporte le match, on n'est pas capable de le faire, on peut faire autre chose. Mais ils ne peuvent pas venir réclamer d'inverser et d'être eux les organisateurs du match du mois de mars. Parce que là, c'est Rennes qui serait lésé par rapport au fait qu'ils n'ont que 4 jours pour organiser un événement sportif très important qui, dans une ville comme Rennes, ça draine énormément de choses. Les gens qui viennent et tout, sans compter que là, tu as des supporters qui avaient prévu d'aller à Paris, qui doivent annuler leur voyage. Il y a plein de choses qui sont chamboulées. Et d'ailleurs, moi, je trouve pas que les Parisiens rouspètent vraiment. Il y a beaucoup de supporters qui s'agitent un peu sur les réseaux. Mais on va attendre, parce que le 28, il va y avoir donc la réunion pour valider définitivement. Je ne sais pas dans quel état sont les dirigeants parisiens. Est-ce qu'ils sont réellement en colère de cette situation-là? Moi, à leur place, je serais plutôt en colère sur eux qui ont toujours eu une pelouse absolument nickel, parfaite,
ouais.
Et un jardinier exceptionnel. Bon, ben là, ils sont dans la merde. Ouais, c'est arrivé à d'autres clubs d'être dans la merde de ce côté-là. Bon, ben écoute, moi, j'aurais fait autrement. J'aurais peut-être demandé le report.
Bon, Wally, t'es d'accord avec ça?
Je suis d'accord. Moi, pour moi, soit il y a un report du côté du PSG, d'accord, s'ils ne sont pas contents que Rennes... reçoivent le deuxième match, soit ils se plient au règlement, et le règlement c'est que Rennes, s'il dépanne le Paris Saint-Germain, il doit avoir le deuxième match au Roi.
On peut dire que Rennes en profite.
Ils en profitent.
Après, oui, parce qu'ils auront un match à domicile en plus.
Après, oui, il y a aussi.
Il n'y avait qu'à leur dire non, il n'y avait qu'à avoir un règlement et des prises de décision claires pour dire non, dans ces cas-là, si vous l'organisez, c'est au détriment de l'autre. Rennes aurait
dit non. Après, ça peut ouvrir un autre tiroir, c'est les concurrents de Rennes à la Ligue des Champions qui diront ils ont la chance de recevoir deux fois le PSG.
Mais ce sera légitime de dire ça, en ce moment dans notre football français, avec des histoires comme ça, c'est incroyable, parce qu'on n'a pas de LFP.
Tout ça pour un champignon. On parle de Bordeaux. Walid, Daniel, on est dans l'after sur RMC encore jusqu'à minuit. Décision donc du tribunal administratif de Paris qui a maintenu la décision de rétrograder les Girondins de Bordeaux en Régional 1. L'équipe va donc repartir au 6e niveau et on accueille David Glusman dans la After. Salut David.
Salut Jérôme, salut à tous.
Salut David.
Bon David, que s'est-il passé pour que le TA de Paris maintienne cette décision alors que Sparta Capital et son potentiel repreneur avaient promis d'apporter les fonds? Pourquoi on en arrive là?
On en arrive là parce que le droit a été respecté tout simplement, Jérôme. Dans la mesure où le tribunal administratif de Paris ne se prononce que sur le fond, le droit, la légalité, et pas sur le fond du dossier. La question, c'était pas de savoir si le projet de Sparta Capital et de ses actionnaires était viable. La question, c'était de savoir si le projet avait été présenté dans les délais. En DNCG d'appel, donc le 15 juillet, les fonds nécessaires au financement de la saison n'étaient pas présents. Ils sont arrivés 15 jours après, dans la mesure où ils sont arrivés une fois que Gérard Lopez a décidé de s'asseoir sur sa clause de retour à meilleure fortune et sur ses comptes courants d'actionnaires. Donc, dans la mesure où il y a une nouvelle structure financière entre la DNCG d'appel et le CNOSF, c'est un élément nouveau que la DNCG, les instances n'étaient pas tenues de prendre en compte. Donc, décision sur le plan juridique, absolument logique. Après, moi, comme je l'ai déjà dit samedi dernier dans l'after, d'un point de vue business, d'un point de vue financier, avec ma casquette business et pas de supporter girondin, je tiens à le souligner, je trouve ça quand même dommage qu'en 2026, un investisseur qui est certes en retard, qui est prêt à dépenser plus de 20 millions d'euros, puisque plus de 20 millions d'euros ont été sécurisés, 20 millions d'euros, c'est 3 années d'exploitation, se voit fermer la porte au nez, notamment par la fédération. Mais je ne blâme
Fédération. Je suis très réservé sur ces gens-là. Des gens qui arrivent en retard, des gens qui, quand ils parlent, disent autant de conneries, soi-disant des gens sérieux, qui ont de l'oseille. Moi, je suis très méfiant par rapport à ce monsieur-là, comment il s'appelle, là, ton ami, là, Delport, là, Delport.
Ah non, c'est pas mon ami. Ça, mais...
Oui, non, c'est une formule.
Ça, c'est, alors,
la façon dont il parle, les gens.
Ce serait le futur probable président, oui, Dominique Delport, je crois.
Oui, non, mais la façon, mais oui, ne vous inquiétez pas, Zidane nous soutient et Macron va intervenir.
Moi,
ça me semble pas être des gens sérieux.
Daniel,
ça me semble pas des gens sérieux, David, moi, ça.
Daniel, c'est pas parce qu'il y a. Et encore une fois, je ne parle pas en tant que.
Comment ça, c'est pas parce que les mecs, ils racontent, les mecs, ils brassent de l'air, c'est une pompe à vélo, le mec.
Non mais
tu peux pas parler comme ça. Tu peux pas me dire que c'est des gens sérieux. Le gars, il arrive, il te mouille Zidane, il te mouille Macron à peine arrivé, et en plus
Daniel,
il arrive en retard
Daniel,
pour l'oseille.
Tout ce que je te dis, c'est qu'il y a 20,6 millions d'euros qui sont arrivés, certes trop tard, qui ont été sécurisés. Comment? Par de l'argent qui est en compte séquestre, c'est pas du vent, et par une lettre de crédit qui a été émise par JP Morgan.
Je te rappelle que Lopez aussi, quand il est arrivé, il avait 2-3 billes, et il a mis le club dans le ravin. Moi, je te dis que ce gars-là, même s'il avait 10 ou 20 millions, moi, la façon dont il parle, ça me semble pas être quelqu'un de sérieux. Je suis supporter de Bordeaux, j'ai pas envie qu'il vienne.
Délégué, Daniel.
C'est pire, c'est lui qui va gérer le club, alors.
Il est président délégué.
Comment tu m'expliques ce qu'il raconte? Parce que tu les as vu,
président délégué. Mais Daniel, je les ai critiqués en prime time. On s'est moqué de lui dans l'after. On s'est moqué ses sorties sur Twitter. Donc je peux pas te dire mieux. Mais là, la question, c'est pas de savoir si Dominique Delport.
Quand tu veux vraiment un projet, t'arrives pas en retard avec l'oseille. T'arrives pas en retard avec l'oseille quand tu veux vraiment. Quand tu veux un projet.
Daniel,
la question maintenant, s'il faut avancer, parce que il faut avancer, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils sont en R1. Le pire, c'est que. Ils sont pas au bout de leur peine, les Bordelais. C'est que maintenant qu'ils sont complètement à la rue, qui c'est une espèce de cadavre, ben il y en a quand même encore plein de gens qui tournent autour. Et là maintenant, ceux qui tournent autour, c'est les anciens. Donc on a Trio, qui c'est lui le patron de l'association. Là, lui, il veut arriver avec des gens qui auraient de la thune, des anciens joueurs qui veulent filer un coup de main. On a peut-être certainement d'autres projets qui vont avec d'autres anciens présidents qui vont sortir du bois. En fait, t'as l'impression que tout ce qui reste de carterons, d'amoureux du club bordelais vont s'engueuler entre eux sur quelle est la meilleure solution alors qu'on est en Régional 1, qu'on est complètement dans la merde.
Pas encore sûr.
Qu'est-ce qui va être la moins pire ou la meilleure solution?
Bon, Daniel, maintenant, comme tu l'as dit, s'il y a liquidation, il devrait y avoir reprise par l'association. Et Jean-Louis Triot, qui est président de l'association, voilà, s'est déjà posé en faiseur de roi.
Visiblement, il a envie de faire un dernier tour de piste avec des anciens joueurs. Moi aujourd'hui, je me méfie de tout le monde à Bordeaux, moi. Moi, je me méfie de tout le monde.
Non, mais attends. Mais Daniel, pour
je
ne
sais pas quel sera le meilleur dossier, même au plus bas niveau.
C'est pour ça aussi que, à mon avis, le moindre mal, c'était la reprise du club en N1, dans la mesure où nous n'avons pas de Marc Keller à Bordeaux, nous n'avons pas de Thierry Gomez à Bordeaux, Daniel. Nous n'avons pas de personne économiquement,
financièrement. Il faudrait quand même, il y en a plein qui sont là, il y en a plein des anciens là. Il y a Stéphane Martin qui va sortir du bois, Jean-Louis Triot est déjà là, il va y en avoir des anciens, Triot, des amoureux du club qui
Daniel,
vont venir.
Jean-Louis Triot l'était déjà dépassé lors de son passage de témoin.
Ah mais moi je te dis pas que c'est une bonne solution, parce que je suis en train de te dire que justement, moi, tout m'inquiète. En fait, tout m'inquiète à Bordeaux.
Tout m'inquiète également, mais encore une fois.
Et le mec qui avait les 10 millions, là, il m'inquiète encore plus.
Il n'y a personne. Non, mais oui, mais c'est pas lui qui avait les 10 millions, c'était les actionnaires.
En tout cas, c'est vraiment un club à l'agonie. Et moi, franchement, je suis supporter Bordeaux. Un type comme Gérard Lopez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas un type comme ça. Ce gars-là se regarde dans une glace le matin.
Ouais, c'est
sa responsabilité va peut-être être engagée, mais ce sera difficile à mettre en jeu.
Bon, il va retourner tranquille à Ibiza. Et puis voilà.
Immense tristesse en tout cas donc de voir les Girondins.
C'est dur de rester
confirmé.
Calme quand t'es supporter face à un homme comme ça.
Le mec qui t'a crevé depuis le début, on savait qu'il allait les crever.
J'ai les amis supporters bordelais.
Et les assos de supporters qui ont soutenu Lopez. Les assos de supporters.
Faut se rendre dans une glace aussi.
Quand on dit parfois il faut faire parler les supporters, il faut les laisser décider dans les clubs et tout.
Regarde le résultat.
Faisons attention aussi à ça parfois.
Alors les suites disciplinaires de la finale de la Coupe du Monde avant le mercato. Il nous reste quelques minutes, Walid, Daniel. On est sur RMC dans l'after. Les comportements violents, vous vous en souvenez évidemment, après la finale de la Coupe du Monde. La FIFA a frappé fort aujourd'hui. Suspension de Leandro Paredes pour 10 matchs. Suspension de Nahuel Molina pour 7 matchs. Suspension pour un match de Thiago Almada, de Roberto Ayala, l'un des adjoints de Scaloni, et de l'Espagnol Gavi. On parle d'amendes également qui vont de 25 000 à 77 000 euros. Et la Fédération Argentine, elle, va devoir payer 265 000 euros pour plusieurs violations. Il n'y a pas de match à huis clos. Qu'est-ce que vous pensez de ces sanctions?
Très bien, comportement de voyous des Argentins.
Je ne pense pas grand-chose. Ils ont décidé, ils méritent les sanctions. Les mecs, ils ont déconné.
Ils ont été minables.
J'ai même pas tellement à commenter. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés, la FIFA. J'imagine qu'il y a eu d'autres cas similaires où les matchs se sont terminés comme ça. Quand je vois ce qu'a fait Paredes, qu'ils prennent 10 matchs, ça ne me semble pas scandaleux.
Le mercato, Terem Mofic est attendu à Hambourg ce soir. Ce que nous dit Fabrice Hawkins. On parle d'un transfert.
Terem Mofic, il existe encore?
Accord total.
C'est surtout
2,5 millions d'euros.
Qu'ils aient trouvé un acheteur. Ils ont trouvé un acheteur.
Contrat de 3 ans.
Il a le genou en vrac, hein, Terem Mofic.
Visite
médicale demain matin.
C'est pas fait alors.
Non.
Donc on est en train de parler de Terem Mofic qui, quand Nice l'a acheté de Lorient, tu te souviens, il y avait eu une guerre avec l'OM là.
25 bâtons. Hein.
Le directeur sportif à l'époque à Nice, Flo Ghisolfi, était aux anges d'avoir en gros doublé l'OM pour attirer ce joueur. 25 barres.
Ouais.
25 barres. Le mec aujourd'hui, il vaut ça. Je pense à Kevin qui parfois s'enflamme sur le prix des transferts. Ouais. On fait n'importe quoi sur le niveau des joueurs et tout. Mofi, c'est que dalle. Ça vaut rien.
Rappeler que le duel entre Nice et l'OM, c'était l'hiver. Hein. C'était l'hiver. C'était Vitinha et Terem Mofi. Et Vitinha, pas du PSG. Hein. Vitinha à 32 et Terem Mofi. Donc, les deux ont acheté deux voitures volées sur le bon coin. Et aujourd'hui, c'est catastrophique.
Bref, Crystal Palace est intéressé par Mofi, Songoutou Magassa.
C'était une Porsche, c'est une Twingo maintenant. Ouais.
Magassa qui était à Monaco, qui avait été transféré à West Ham. Crystal Palace veut le récupérer. Metalli, c'est fait à Sunderland. Ouais. Finalement, le transfert a été officialisé. Pas de problème de dos. 28 millions d'euros le transfert.
Metalli, on en a parlé sur les postes des latéraux qu'on cherche en équipe de France. Je pense que sur les deux prochaines années, on va vite l'avoir en équipe de France.
Le PSG a fixé le prix d'Ibrahim Mbaye. 70 millions d'euros réclamés par le club de la capitale. Liverpool ne va pas monter au-delà de 50. Ça va poser un problème.
Ouais. Ah bon,
70 millions d'euros,
50, c'est déjà énorme. Il a fait quoi, Mbaye, en fait? C'est un prospect, c'est un joueur d'avenir, c'est un pari, quoi.
Ouais, mais 70 millions d'euros, ça montre quand même qu'ils tiennent à Mbaye, quand même, le PSG. Parce que s'ils veulent.
Bon, ils affichent les prix.
Oui, mais les prix, enfin, oui.
Quand t'as une boutique de luxe,
enfin, si
tu mets
envie
des,
de le sortir,
tu mets des gros tarifs sur les tickets.
Oui, mais si t'as envie de le sortir, tu mets 35,
ça,
40,
c'est début,
50.
C'est un début de discussion, ça.
Enfin, là, s'ils vendent pour 130 Barcola et 60, si les deux partent pour 200, c'est quand même, moi, je trouve, très bien vendu.
Ah oui, bah, tu m'étonnes. Ouais.
Après, ils ont des qualités, hein, mais je trouve que c'est très bien vendu. Surtout deux joueurs qui veulent partir.
Mais les tarifs ne veulent plus rien dire en Angleterre, ouais, on ne sait plus. Quoi.
Ouais. Un dernier mot sur Julian Alvarez, puisque la porte a été fermée par le président de l'Atlético de Madrid, Miguel Angel Ril.
Mais la porte pour le Barça.
La porte pour un départ.
Ah, oui. Tout court.
La porte pour un départ.
Ah, je
tout
crois
court.
Que c'était au Barça, on ne veut pas, non, mais ailleurs on discute.
Nous allons aider Julian et continuer à prendre soin de lui afin qu'il puisse exploiter pleinement son potentiel. Ouais. Nous avons besoin de lui. Il faut comprendre que Julian n'a pas été entouré des meilleurs conseillers concernant sa carrière professionnelle ces derniers mois.
En prendre soin de lui, les attaquants qui réussissent à l'Atlético de Madrid sur les 10 dernières années, il n'y en a pas 10 000. Hein. C'est-à-dire que moi j'aime bien, mais bon, Julian Alvarez, j'aimerais bien le voir ailleurs qu'à l'Atlético de Madrid.
Pourquoi
qu'il ait deux trois occasions par match, quoi.
Ouais, voilà, pour son jeu.
Ouais, plus de deux occasions par match.
Pour moi, c'est un des meilleurs neufs. Hein. Pour moi, il est top 3 des neufs en Europe.
Ah, mais il est en train de s'enliser.
Je veux pas qu'il s'encroute, quoi. Ouais.
Moi,
j'ai envie de le voir dans un grand club et titulaire. Pas doublure ou pas je suis là, mais il y a déjà un super neuf à ma place. En gros, comme c'était à City. Là, à l'Atlético, c'est le jeu qui lui convient pas. Ah, j'aurais aimé qu'il soit dans une équipe où le jeu lui convient.
Mais bon, il est quand
plus,
même parti si à la faute en disant qu'il voulait se barrer pendant la Coupe du Monde, parce que ça lui a un peu tué sa Coupe du Monde.
Mais là, je pense que c'est à ça que se réfère le président de l'Atlético en parlant des conseillers.
Les garçons, l'after revient demain soir. Walid, tu seras là?
Demain, je suis là.
Avec Maxime
demain.
Également.
Premier train demain, 8h.
Ah ouais.
On repart au boulot, c'est fini.
Il y a des trains plus tôt.
Ouais.
Sauf que t'as une soirée ce soir, je sens.
Non. Repos, c'est fini.
Bon, les garçons, c'était un plaisir.
On repart au charbon.
Non, il est à la salle de sport entre 6 et 7.
Ah oui, c'est vrai.
On repart au charbon.
Ah, il est pas padel?
Ouais, attends, à 6h, il fait un peu footing en salle de sport. 7h, petit déj, 8h dans le train.
Faut la reprendre, cette salle de sport.
Voilà. C'était l'after. L'after en direct du Vélodrome pour lancer cette grande saison de Ligue 1 sur l'antenne de RMC.